Voltaire, pot pourri. Briochet fut le père de Polichinelle, non pas son propre père, mais père de génie. Le père de Briochet était Guillot Gorju, qui fut fils de Gilles, qui fut fils de Gros René, qui tirait son origine du prince des Sceaux et de la mère Sotte. C'est ainsi que l'écrit l'auteur de l'almanach de la foire. Monsieur Parfait, écrivain nombre indigne de foi, donne pour père à Briochet Tabarin, à Tabarin Gros Guillaume, à Gros Guillaume Jean Boudin, mais en remontant toujours au prince des Sceaux. Si ces deux historiens se contredisent, c'est une preuve de la vérité du fait pour le père Daniel, qui les concilie avec une merveilleuse sagacité et qui détruit par là le pyrrhonisme de l'histoire. Comme je finissais ce premier paragraphe des cahiers de Henri Missing dans mon cabinet, dont la fenêtre donne sur la rue Saint-Antoine, j'ai vu passer les syndics des apothicaires qui allaient saisir des drogues et du verre de gris que les jésuites de la rue Saint-Antoine vendaient en contrebande. Mon voisin, M. Husson, qui est une bonne tête, est venu chez moi et m'a dit « Mon ami, vous riez de voir les jésuites vilipendés. Vous êtes bien aise de savoir qu'ils sont convaincus d'un parricide au Portugal et d'une rébellion au Paraguay. Le cri public qui s'élève en France contre eux, la haine qu'on leur porte, les opprobres multipliés dont ils sont couverts, semblent être pour vous une consolation. Mais sachez que s'ils sont perdus comme tous les honnêtes gens le désirent, vous n'y gagnerez rien. Vous serez accablés par la faction des jansénistes. Ce sont des enthousiastes féroces, des armes de bronze, pires que les presbytériens qui renversèrent le trône de Charles Ier. Songez que les fanatiques sont plus dangereux que les fripons. On ne peut jamais faire entendre raison à un énergumène. Les fripons l'entendent. » Je disputais longtemps contre M. Husson. Je lui dis enfin, « Mais monsieur, consolez-vous. Peut-être que les jansénistes sont un jour aussi adroits que les jésuites. » Je tâchais de l'adoucir, mais c'est une tête de fer qu'on ne fait jamais changer de sentiment. Briochet, voyant que Polichinelle était bossu par devant et par derrière, lui voulut apprendre à lire et à écrire. Polichinelle, au bout de 2 ans, épela assez passablement, mais il ne put jamais parvenir à se servir d'une plume. Un des écrivains de sa vie remarque qu'il essaya un jour d'écrire son nom, mais que personne ne put le lire. Briochet était fort pauvre. Sa femme et lui n'avaient pas de quoi nourrir Polichinelle, encore moins de quoi lui faire apprendre un métier. Polichinelle leur dit « Mon père et ma mère, je suis bossu et j'ai de la mémoire. 3 ou 4 de mes amis et moi, nous pouvons établir de marionnettes. Je gagnerai quelque argent. Les hommes ont toujours aimé les marionnettes. Il y a quelquefois de la perte à en vendre de nouvelles, mais aussi il y a de grands profits. » Monsieur et Madame Briochet admirèrent le bon sens du jeune homme. La troupe se forma et elle alla s'établir ses petits tréteaux dans une bourgade suisse sur le chemin d'Appenzell à Milan. C'était justement dans ce village que les charlatans d'Orvette avaient établi le magasin de l'Aurore Viétan. Ils s'aperçurent qu'insensiblement la canaille allait aux marionnettes et qu'ils vendaient dans le pays la moitié moins de savonnettes et d'onguents pour la brûlure. Ils accusèrent Polichinelle de plusieurs mauvais déportements et portèrent leur plainte devant le magistrat. La requête disait que c'était un ivrogne dangereux, qu'un jour il avait donné 100 coups de pied dans le ventre en plein marché à des paysans qui vendaient des nèfles. On prétendit aussi qu'il avait molesté un marchand de coqs d'Inde. Enfin, ils l'accusèrent d'être sorcier. M. Parfait, dans son histoire du théâtre, prétend qu'il fut avalé par un crapaud. Mais le père Daniel pense, ou du moins parle autrement. On ne sait pas ce que devint Briochet. Comme il n'était que le père putatif de Polichinelle, l'historien n'a pas jugé à propos de nous dire de ses nouvelles. Feu monsieur Dumarsais assurait que le plus grand des abus était la vénalité des charges. C'est un grand malheur pour l'État, disait-il, qu'un homme de mérite, sans fortune, ne puisse parvenir à rien. Que de talents enterrés et que de sots en place. Quelle détestable politique d'avoir éteint l'émulation. Monsieur Dumarsais, sans y penser, plaidait sa propre cause. Il a été réduit à enseigner le latin. Et il aurait rendu de grands services à l'État s'il avait été employé. Je connais des barbouilleurs de papier qui eussent enrichi une province s'ils avaient été à la place de ceux qui l'ont volé. Mais pour avoir cette place, il faut être fils d'un riche qui vous laisse de quoi acheter une charge, un office, et ce qu'on appelle une dignité. Dumarsais assurait qu'un Montaigne, un Charron, un Descartes, un Gassendi, un Bel n'eût jamais condamné aux galères des écoliers soutenant thèse contre la philosophie d'Aristote, ni n'aurait fait brûler le curé Urbain Grandier, le curé Goffredi, et qu'il n'eût soit, etc., etc. Il n'y a pas longtemps que le chevalier Rocinante et le gentilhomme Ferrarois, qui voulait faire une collection de tableaux de l'école flamande, alla faire des emplins dans Amsterdam. Il marchanda un assez beau Christ chez le sieur Van der Gru. « Est-il possible, dit le Ferrarois au Batave, que vous, qui n'êtes pas chrétien, car vous êtes hollandais, vous ayez chez vous un Jésus ?»« Mais je suis chrétien et catholique, répondit M. Van der Gru, sans se fâcher, et il vendit son tableau assez cher. « Ah, vous croyez donc Jésus-Christ Dieu ?» dit Rocinante. « Assurément, dit Van der Gru. » Un autre curieux logeait à la porte attenant, c'était un Socinien. Il lui vendit une sainte famille. « Que pensez-vous de l'enfant ?» dit le Ferrarois. « Je pense, répondit l'autre, que ce fut la créature la plus parfaite que Dieu ait mise sur la terre. » De là, le Ferrarois alla chez Moïse Mansebo, qui n'avait que de beaux paysages et point de sainte famille. Rocinante lui demanda pourquoi on ne trouvait pas chez lui de pareils sujets. « C'est, dit-il, que nous avons cette famille en exécration. » Rocinante passa chez un fameux anabaptiste, qui avait les plus jolis enfants du monde. Il leur demanda dans quelle église ils avaient été baptisés. « Fis donc, monsieur, lui dirent les enfants, grâce à Dieu, nous ne sommes point encore baptisés. » Rocinante n'était pas au milieu de la rue qu'il avait déjà vu une douzaine de sectes entièrement opposées les unes aux autres. Son compagnon de voyage, M. Sacrito, lui dit « Enfuyons-nous vite, voilà l'heure de la bourse. Tous ces gens s'y vont s'égorger sans doute, selon l'antique usage, puisqu'ils pensent tous diversement, et la population nous assommera pour être sujet du pape. » Ils furent bien étonnés quand ils virent toutes ces bonnes gens-là sortir de leur maison avec leurs commis, se saluer civilement et aller à la bourse de compagnie. Il y avait ce jour-là, de compte fait, 53 religions sur la place, en comptant les Arméniens et les jansénistes. On fit pour 53 millions d'affaires le plus paisiblement du monde, et le Ferrarois retourna dans son pays, où il trouva plus d'Agnus Dei que de lettres de change. On voit tous les jours la même scène à Londres, à Hambourg, à Danzig, à Venise même, etc. Mais ce que j'ai vu de plus édifiant, c'est à Constantinople. J'eus l'honneur d'assister, il y a 50 ans, à l'installation d'un patriarche grec par le sultan Ahmed III, dont Dieu veuille avoir l'âme. Il donna à ce prêtre chrétien l'anneau et le bâton fait en forme de béquille. Il y eut ensuite une procession de chrétiens dans la rue Cléobule. Deux janissaires marchèrent à la tête de la procession. J'eus le plaisir de communier publiquement dans l'église patriarcale et il ne tint qu'à moi d'obtenir un canonicat. J'avoue qu'à mon retour à Marseille, je fus fort étonné de ne point y trouver de mosquée. Je remarquai ma surprise à monsieur l'intendant et à monsieur l'évêque. Je leur dis que cela était fort incivil et que si les chrétiens avaient des églises chez les musulmans, on pouvait au moins faire aux Turcs la galanterie de quelques chapelles. Ils me promirent tous deux qu'ils en écriraient en cour, mais l'affaire en demeura là à cause de la constitution unigenitus. Oh, mes frères les jésuites, vous n'avez pas été tolérants, et on ne l'est pas pour vous. Consolez-vous, d'autres à leur tour deviendront persécuteurs, et à leur tour ils seront abhorrés. Je contais ces choses il y a quelques jours à M. de Beaucacou, languedocien très chaud et huguenot très ailé. Cavalisque, me dit-il, on vous traite donc en France comme les Turcs. On leur refuse des mosquées, on ne nous accorde point de temple. Pour des mosquées, lui dis-je, les Turcs ne nous en ont pas encore demandé. Et j'ose me flatter qu'ils en obtiendront quand ils voudront, parce qu'ils sont nos bons alliés. Mais je doute fort qu'on rétablisse vos temples, malgré toute la politesse dont nous nous piquons. La raison est que vous êtes un peu nos ennemis. Vos ennemis, s'écria M. de Boukakou, nous qui sommes les plus ardents des serviteurs du roi. Mais vous êtes fort ardent, lui répliquai-je, si ardent que vous avez fait 9 guerres civiles, sans compter les massacres des Cévennes. Mais, dit-il, si nous avons fait des guerres civiles, c'est que vous nous cuisiez en place publique. On se lasse à la longue d'être brûlé. Il n'y a pas science de saint qui puisse y tenir, qu'on nous laisse en repos, et je vous jure que nous serons des sujets très fidèles. Mais c'est précisément ce qu'on fait, lui dis-je. On ferme les yeux sur vous, on vous laisse faire votre commerce. Vous avez une liberté assez honnête. Voilà une plaisante liberté, dit M. de Boukakou. Nous ne pouvons nous assembler en pleine campagne 4 ou 5 000 seulement, avec des psaumes à 4 parties, que sur le champ il devait un régiment de dragons qui nous fait rentrer chacun chez nous. Est-ce là vivre, est-ce là être libre? Alors je lui parlais ainsi. Mais il n'y a aucun pays dans le monde où l'on puisse s'attrouper sans l'ordre du souverain. Tout attroupement est contre ses lois. Servez Dieu à votre mode, dans vos maisons, n'étourdissez personne par des hurlements que vous appelez musique. Pensez-vous que Dieu soit bien content de vous quand vous chantez ses commandements sur l'air de « Réveillez-vous, bel endormi » et quand vous dites avec les Juifs en parlant d'un peuple voisin « Heureux qui doit te détruire à jamais, qui t'arrachant les enfants des mamelles écrasera leurs têtes infidèles. » Dieu veut-il absolument qu'on écrase les cervelles des petits-enfants? Cela est-il humain? De plus, Dieu aime-t-il tant les mauvais vers et la mauvaise musique? Monsieur de Boukakou m'interrompit et me demanda si le latin de cuisine de nos psaumes valait mieux. Non, sans doute, lui dis-je. Je conviens même qu'il y a un peu de stérilité d'imagination à ne prier Dieu que dans une traduction très vicieuse de vieux cantiques d'un peuple que nous abhorrons. Nous sommes tous juifs à vêpres, comme nous sommes tous païens à l'opéra. Ce qui me déplaît seulement, c'est que les métamorphoses d'Ovide sont, par la malice du démon, bien mieux écrites et plus agréables que les cantiques juifs, car il faut avouer que cette montagne de Sion et ses gueules de basilic et ses collines qui sautent comme des béliers et toutes ces répétitions fastidieuses ne valent ni la poésie grecque, ni la latine, ni la française. Le froid que tu racines a beau faire, cet enfant dénaturé n'empêchera pas, profanement parlant, que son père ne soit un meilleur poète que David. Mais enfin, nous sommes la religion dominante chez nous. Il ne nous est pas permis de vous attrouper en Angleterre. Pourquoi voudriez-vous avoir cette liberté en France? Faites ce qui vous plaira dans vos maisons. Et j'ai parole de monsieur le gouverneur et de monsieur l'intendant, qu'en étant sage, vous serez tranquille. L'imprudence seule vit et fera des persécutions. Je trouve très mauvais que vos mariages, l'état de vos enfants, le droit d'héritage souffrent la moindre difficulté. Il n'est pas juste de vous saigner, de vous purger, parce que vos pères ont été malades, mais que voulez-vous? Ce monde est un grand médium, où des fous enchaînent d'autres fous. Les compagnons de Polichinelle, réduits à la mendicité qui était leur état naturel, s'associèrent avec quelques bohèmes et coururent de village en village. Ils arrivèrent dans une petite ville et logèrent dans un quatrième étage, où ils se mirent à composer des drogues dont la vente les aida quelque peu à subsister. Ils guérirent même de la gale l'épagneul d'une dame de considération. Les voisins crièrent au prodige, mais malgré toute leur industrie, la troupe ne fit pas fortune. Ils se lamentaient de leur obscurité, de leur misère, lorsqu'un jour, ils entendirent un bruit sur leur tête, comme celui d'une brouette qu'on roule sur le plancher. Ils montèrent au cinquième étage et y trouvèrent un petit homme qui faisait des marionnettes pour son compte. Il s'appelait le sieur Bienfait. Il avait tout juste le génie qu'il fallait pour son art. On n'entendait pas un mot de ce qu'il disait, mais il avait un galimatias fort convenable et il ne faisait pas mal ses bamboches. Un compagnon, qui excellait aussi en galimatias, y parla ainsi. « Nous croyons que vous êtes destiné à relever nos marionnettes, car nous avons lu dans Nostradamus ses propres paroles. « Nelle qu'il porratec sous res fait en bi, lesquelles prises à rebours font évidemment bi à faire ressuscitera Polichinelle. Le nôtre a été avalé par un crapaud, mais nous avons retrouvé son chapeau, sa bosse et sa pratique. Vous fournirez le fil d'Arcal. Je crois d'ailleurs qu'il vous sera aisé de lui faire une moustache toute semblable à celle qu'il avait, et quand nous serons unis ensemble, il est à croire que nous aurons beaucoup de succès. Nous ferons valoir Polichinelle par Nostradamus, et Nostradamus par Polichinelle. » Le sieur Bienfait accepta la proposition. On lui demanda ce qu'il voulait pour sa peine. « Me veut, dit-il, beaucoup d'honneur et beaucoup d'argent. » « Ah, nous n'avons rien de cela, » dit l'orateur de la troupe. « Mais avec le temps, on a de tout. » Le sieur Bienfait se lia donc avec les bohèmes, et tous ensemble allèrent à Milan établir leur théâtre sous la protection de Madame Carminetta. On afficha que le même Polichinelle, qui avait été mangé par un crapaud du village du canton d'Appenzell, reparaîtrait sur le théâtre de Milan, et qu'il danserait avec Madame Gigogne. Tous les vendeurs d'Orvietan eurent beau s'y opposer, et le sieur Bienfait, qui avait aussi le secret de l'Orvietan, soutint que le sien était le meilleur. Il en vendit beaucoup aux femmes qui étaient folles de Polichinelle, et il devint si riche qu'il se mit à la tête de la troupe. Dès qu'il eut ce qu'il voulait, et que tout le monde veut, des honneurs et du bien, il fut très ingrat envers Madame Carminetta. Il acheta une belle maison vis-à-vis de celle de sa bienfaitrice, et il trouva le secret de la faire payer par ses associés. Bon, on ne le vit plus faire sa cour à Madame Carminetta, au contraire, il voulut qu'elle vînt déjeuner chez lui. Et un jour qu'elle dédia y venir, il lui fit fermer la porte au nez, etc. N'ayant rien entendu au précédent chapitre de Merseyssing Singh, je me transportai chez mon ami M. Husson pour lui demander l'explication. Bon, il me dit que c'était une profonde allégorie sur le père Lavalette, marchand banqueroutier d'Amérique, mais que d'ailleurs il y avait longtemps qu'il ne s'embarrassait plus de ses sottises, qu'il n'allait jamais aux marionnettes, qu'on jouait ce jour-là Polyeucte et qu'il voulait l'entendre. Nous l'accompagnions à la comédie. M. Husson, pendant le premier acte, branlait toujours la tête. Je lui demandais dans l'entracte pourquoi sa tête branlait tant. Ben, j'avoue, dit-il, que je suis indigné contre ce sot. Polyeucte et contre cet impudent néarque. Que diriez-vous d'un gendre de M. le gouverneur de Paris, qui serait huguenot et qui, accompagnant son beau-père le jour de Pâques à Notre-Dame, irait mettre en pièces le ciboire et le calice, et donner des coups de pied dans le ventre à monsieur l'archevêque et aux chanoines. Serait-il bien justifié en nous disant que nous sommes des idolâtres? Qu'il a entendu dire au sieur Lubalier, prédicant d'Amsterdam, et au sieur Banfier, compilateur à Berlin, auteur de la bibliothèque germanique, qui le tenait du prédicant Huriéjou. Eh bien, c'est là le fidèle portrait de la conduite de Paul Yeucht. Peut-on s'intéresser à ce plat fanatique, séduit par le fanatique néarque? Monsieur Husson me disait ainsi son avis amicalement dans les entractes. Il se mit à rire quand il vit Paul Yeucht résigné à sa femme, à son rival. Il la trouva un peu bourgeoise quand elle dit à son amant qu'elle va dans sa chambre au lieu d'aller avec lui à l'église. Adieu, trop vertueux objet, trop charmant. Adieu, trop généreux et trop parfait amant. Je vais seul en ma chambre enfermer mes regrets. Mais il admira la scène où elle demande à son amant la grâce de son mari. Il y a là, dit-il, un gouverneur d'Arménie qui est bien le plus lâche, le plus bas des hommes. Ce père de Pauline avoue même qu'il a des sentiments d'un coquin. Paul Yeucht est ici l'appui de ma famille. Mais si par son trépas l'autre épousait ma fille, j'acquerrais bien par là le plus puissant appui qui me mettrait plus haut 100 fois que je ne suis. Un procureur au Châtelet ne pourrait guère ni penser ni s'exprimer autrement. Il y a de bonnes âmes qui avalent tout ça. Oh, je ne suis pas du nombre. Si ces pauvretés peuvent entrer dans une tragédie du pays des Gaules, il faut brûler la dîme des Grecs. Monsieur Husson est un rude homme. J'ai fait ce que j'ai pu pour l'adoucir, mais je n'ai pu en venir à bout. Il a persisté dans son avis, et moi dans le mien. Nous avons laissé le sieur bienfait fort riche et fort insolent. Il fit tant par ses menées qu'il fut reconnu pour entrepreneur d'un grand nombre de marionnettes. Dès qu'il fut revêtu de cette dignité, il fit promener Polichel, Lichinel dans toutes les villes, et afficha que tout le monde serait tenu à l'appeler monsieur, sans quoi il ne jouerait point. C'est de là que, dans toutes les représentations des marionnettes, il ne répond jamais à son compère que quand le compère l'appelle monsieur Polichinelle. Et peu à peu, Polichinelle devint si important qu'on ne donna plus aucun spectacle sans lui payer une rétribution, comme les opéras des provinces en payent une à l'opéra de Paris. Un jour, un de ses domestiques, receveur des billets et ouvreur de loges, ayant été cassé au gage, se souleva contre Bienfait et institua d'autres marionnettes qui décrièrent toutes les danses de Madame Gigogne et tous les tours de passe-passe de Bienfait. Il retrancha plus de 50 ingrédients qui entraient dans leur vie étant, composa le sien de 5 ou 6 drogues et, le vendant beaucoup meilleur marché, il enleva une infinité de pratiques à bien fait. Ce qui excita un furieux procès, et on se battit longtemps à la porte des marionnettes dans le préau de la foire. Monsieur Husson me parlait hier de ses voyages. En effet, il a passé plusieurs années dans les échelles du Levant. Il est allé en Perse, il a demeuré longtemps dans les Indes et a vu toute l'Europe. « J'ai remarqué, me disait-il, qu'il y a un nombre prodigieux de Juifs qui attendent le Messie et qui se feraient empaler plutôt que de convenir qu'il est venu. J'ai vu 1000 Turcs persuadés que Mahomet avait mis la moitié de la lune dans sa manche. Le petit peuple, d'un bout du monde à l'autre, croit fermement les choses les plus absurdes. Cependant, qu'un philosophe ait un écu à partager avec le plus imbécile de ces malheureux en qui la raison humaine est si horriblement obscurcie, il est sûr que s'il y a un sou à gagner, l'imbécile l'emportera sur le philosophe. Et comment des taupes si aveugles sur le plus grand des intérêts sont-elles lynx sur les plus petits? Pourquoi le même juif qui vous égorge le vendredi ne voudrait-il pas voler un liard le jour du sabbat? Cette contradiction de l'espèce humaine mérite qu'on l'examine. « N'est-ce pas, dis-je à M. Husson, que les hommes sont superstitieux par coutume et coquins par instinct. J'y rêverai, me dit-il, cette idée me paraît assez bonne. Polichinelle, depuis l'aventure de l'ouvreur de loge, a essuyé bien des disgrâces. Les Anglais, qui sont raisonneurs et sombres, lui ont préféré Shakespeare. Mais ailleurs, ses farces ont été fort en vogue, et sans l'opéra comique, son théâtre était le premier des théâtres. Il y a eu de grandes querelles avec Scaramouche et Arlequin, et on ne sait pas encore qui l'emportera, Mais, mon cher monsieur, disais-je, comment peut-on être à la fois si barbare et si drôle? Comment, dans l'histoire d'un peuple, trouve-t-on à la fois la Saint-Barthélemy et les contes de La Fontaine, etc.? Est-ce l'effet du climat? Est-ce l'effet des lois? Le genre humain, répondit M. Husson, est capable de tout. Néron pleura quand il fallut signer l'arrêt de mort d'un criminel. Joie des farces et assassina sa mère. Les singes font des tours extrêmement plaisants et étouffent leurs petits. Rien n'est plus doux, plus timide qu'une levrette. Mais elle déchire un lièvre et baigne son sang, long museau dans son sang. Ah, vous devriez, lui dis-je, nous faire un beau livre qui développa toutes ces contradictions. Ce livre est tout fait, dit-il. Vous n'avez qu'à regarder une girouette, elle tourne tantôt au doux souffle du zéphyr, tantôt au vent violent du nord. Voilà l'homme. Rien n'est souvent plus convenable que d'aimer sa cousine. On peut aussi aimer sa nièce. Mais il en coûte 18 000 livres payables à Rome pour épouser une cousine, et 80 000 francs pour coucher avec sa nièce en légitime mariage. Je suppose 40 nièces par an mariées avec leurs oncles et 200 cousins et cousines conjoints. Cela fait en sacrement 6 800 000 livres par an qui sortent du royaume. Ajoutez-y environ 600 000 francs pour ce qu'on appelle les annaltes des terres de France, que le roi de France donne à des Français en bénéfice. Jouez-y encore quelques menus frais. C'est environ 8 400 000 livres que nous donnons libéralement au Saint-Père, par an, chacun. Bon, nous exagérons peut-être un peu, mais on conviendra que si nous avons beaucoup de cousines et de nièces jolies, et si la mortalité se met parmi les bénéficiaires, la somme peut aller au double. Le fardeau serait lourd, tandis que nous avons des vaisseaux à construire, des armées et des rentiers à payer. Je m'étonne que, dans l'énorme quantité de livres dont les auteurs ont gouverné l'État depuis 20 ans, aucun n'ait pensé à réformer ces abus. J'ai prié un docteur de Sorbonne de mes amis de me dire dans quel endroit de l'écriture on trouve que la France doive payer à Rome la somme susdite. Mais elle n'a jamais pu le trouver. J'en ai parlé à un jésuite. Il m'a répondu que cet impôt fut mis par Saint-Pierre sur les Gaules dès la première année qu'il vint à Rome. Et comme je doutais que Saint-Pierre eût fait ce voyage, il m'en a convaincu en me disant qu'on voit encore à Rome les clés du paradis qu'il portait toujours à sa ceinture. Il est vrai, m'a-t-il dit, que nul auteur canonique ne parle de ce voyage de Simon Barjone. Mais nous avons une belle lettre de lui datée de Babylone, ou certainement Babylone veut dire Rome. Donc vous devez de l'argent au pape quand vous épouserez vos cousines. J'avoue que j'ai été frappé de la force de cet argument. J'ai un vieux parent qui a servi le roi 52 ans. Il s'est retiré dans la Haute-Alsace où il a une petite terre qu'il cultive dans le diocèse de Pollentru. Il voulut un jour faire donner le dernier labour à son champ. La saison avançait, l'ouvrage pressait. Ses valets refusèrent le service et dirent, pour raison, que c'était la fête de Sainte-Barbe, la sainte la plus fêtée à Pauventru. « Eh, mes amis, leur dit mon parent, Vous avez été à la messe en l'honneur de Barbe, vous avez rendu à Barbe ce qui lui appartient. Rendez-moi ce que vous me devez, cultivez mon champ au lieu d'aller au cabaret. Sainte Barbe ordonne-t-elle qu'on s'enivre pour lui faire honneur et que je manque de blé cette année? Le maître valet lui dit « Monsieur, mais vous voyez bien que je serais damné si je travaillais dans un si saint jour. Sainte Barbe est la plus grande sainte du paradis. Elle grava le signe de la croix sur une colonne de marbre avec le bout du doigt. Et du même doigt et du même signe, elle fit tomber toutes les dents d'un chien qui lui avait mordu les fesses. Oh non, je ne travaillerai point pour le jour de Sainte Barbe. » Mon parent envoya chercher des laboureurs luthériens, et son champ fut cultivé. L'évêque de Porrentruy l'excommunia. Mon parent en appela, comme d'abus, et le procès n'est pas encore jugé. Personne assurément n'est plus persuadé que mon parent qu'il faut honorer les saints, mais il prétend aussi qu'il faut cultiver la terre. Je suppose en France environ 5 millions d'ouvriers, soit manœuvre, soit artisan, qui gagnent chacun, l'un portant l'autre, 20 sous par jour, et qu'on force saintement de ne rien gagner pendant 30 jours de l'année, indépendamment des dimanches. Cela fait 150 millions de moins dans la circulation, et 150 millions de moins en main-d'œuvre. Quelle prodigieuse supériorité ne doivent point avoir sur nous les royaumes voisins, qui n'ont ni Sainte-Barbe, ni d'évêque de Porrentruy. On répondait à cette objection que les cabarets, ouverts les 5 jours de fête, produisent beaucoup aux fermes générales. Mon parent en convenait, mais il prétendait que c'est un léger dédommagement et que d'ailleurs, si on peut travailler après la messe, on peut aller au cabaret après le travail. Il soutient que cette affaire est purement de police et point du tout épiscopale. Il soutient qu'il vaut encore mieux labourer que de s'enivrer. J'ai bien peur qu'il ne perde son procès. Il y a quelques années, et qu'en passant par la Bourgogne avec M. Évrard, que vous connaissez tous, nous vîmes un vaste palais dont une partie commençait à s'élever. Je demandai à quel prince il appartenait. Un maçon me répondit que c'était à Monseigneur l'abbé de Citeaux, que le marché avait été fait à 1 700 000 livres, mais que probablement il en coûterait bien davantage. Je bénis Dieu qui avait mis son serviteur en état d'élever un si beau monument et de répandre tant d'argent dans le pays. « Mais vous moquez-vous ? » dit M. Évrard. « N'est-il pas abominable que l'oisiveté soit récompensée par 250 000 livres de rente et que la vigilance d'un pauvre curé de campagne soit punie par une portion congrue de 100 écus ? Cette inégalité n'est-elle pas la chose du monde la plus injuste et la plus odieuse ? Que reviendra-t-il à l'État quand un moine sera logé dans un palais de 2 millions ? 20 familles de pauvres officiers qui partageraient ces 2 millions auraient chacune un bien honnête et donneraient au roi de nouveaux officiers. Les petits moines qui sont aujourd'hui les sujets inutiles d'un de leurs moines, élus par eux, deviendraient des membres de l'État au lieu qu'ils ne sont que des chances qui les rongent. Je répondis à M. Évrard, « Mais vous allez trop loin et trop vite. Ce que vous dites arrivera certainement dans 200 ou 300 ans, ayez patience. » Et c'est précisément, répondit-il, parce que la chose n'arrivera que dans 2 ou 3 siècles, que je perds toute patience. Je suis là de tous les abus que je vois. Il me semble que je marche dans les déserts de la Libye, où notre sang est sucé par des insectes quand les lions ne nous dévorent pas. J'avais, continua-t-il, une sœur assez imbécile pour être janséniste de bonne foi, et non par esprit de parti. La belle aventure des billets de confession la fit mourir de désespoir. Mon frère avait un procès qu'il avait gagné en première instance. Sa fortune en dépendait. Je ne sais comment il est arrivé que les juges ont cessé de rendre la justice, et mon frère a été ruiné. J'ai un vieil oncle criblé de blessures qui faisait passer ses meubles et sa vaisselle d'une province à une autre. Des commis alertes ont saisi le tout sur un petit manque de formalité. Mon oncle n'a pas pu payer les 3/20 et il est mort en prison. Monsieur Évrard me conta des aventures de cette espèce pendant 2 heures entières. Je lui dis, mon cher monsieur Évrard, j'en ai essuyé plus que vous. Les hommes sont ainsi faits d'un bout du monde à l'autre. Nous nous imaginons que les abus ne règnent que chez nous. Nous sommes tous comme Astolphe et Joconde, qui pensaient d'abord qu'il n'y avait que leurs femmes d'infidèles. Ils se mirent à voyager, ils trouvèrent partout des gens de leur confrérie. Oui, dit M. Évrard, mais ils eurent le plaisir de rendre partout ce qu'on avait eu la bonté de leur prêter chez eux. Tâchez, lui dis-je, d'être seulement pendant 3 ans directeur de, et vous vous en vengerez avec usure. M. Évrard me crut. C'est à présent l'homme de France qui vole le roi, l'État et les particuliers, de la manière la plus dégagée, la plus noble, qui fait la meilleure chair et qui juge le plus fièrement d'une pièce nouvelle. Nous raisonnions ainsi, M. de Boucacousse et moi, quand nous vîmes passer Jean-Jacques Rousseau avec grande précipitation. « Et où allez-vous donc si vite, M. Jean-Jacques ?»« Je m'enfuis, parce que Maître Joly de Fleury a dit dans un réquisitoire que je prêchais contre l'intolérance et contre l'existence de la religion chrétienne. » « Il a voulu dire évidence, lui répondis-je. Il faut pas prendre feu pour un mot. »« Eh, mon Dieu, je n'ai que trop pris feu, dit Jean-Jacques. On brûle partout mon livre. Je sors de Paris comme M. d'Assoucy de Montpellier, de peur qu'on ne brûle ma maison. »« Ça aurait été bon, lui dis-je, du temps d'Anne Dubourg et de Michel Servet, mais à présent on n'est plus humain. Qu'est-ce donc que ce livre qu'on a brûlé ?» « Je levais, dit-il, à ma manière, un petit garçon en 4 tomes. Je sentais bien que je l'ennuierais peut-être, et j'ai voulu, pour égayer la matière, glisser adroitement une 50aine de pages en faveur du théisme. J'ai cru qu'en disant des injures aux philosophes, mon théisme serait bien reçu. Oh, je me suis trompé. Qu'est-ce que théisme, dis-je ? C'est, me dit-il, l'adoration d'un dieu, en attendant que je sois bien instruit. Ah, dis-je, si c'est là que tout votre crime, consolez-vous, mais pourquoi injurier les philosophes ? J'ai tort, fit-il. Mais, monsieur Jean-Jacques, comment vous êtes-vous fait théiste ? Quelle cérémonie faut-il pour cela ? Aucune, nous dit Jean-Jacques. Je suis des protestants, j'ai retranché tout ce que les protestants condamnent à la religion romaine. Ensuite, j'ai retranché tout ce que les autres religions condamnent dans le protestantisme. Alors il ne me restait que Dieu, je l'ai adoré, et Maître Joly de Fleury a présenté contre moi un réquisitoire. Nous parlâmes à fond du théisme avec Jean-Jacques. Il m'apprit qu'il y avait 300 000 théistes à Londres, et environ 50 000 seulement à Paris, parce que les Parisiens n'arrivent jamais à rien que longtemps après les Anglais, témoins l'inoculation, la gravitation, le semoir, etc., etc. Et il ajouta que le nord de l'Allemagne fourmillait de théistes et de gens qui se battent bien. M. de Boucacousse l'écouta attentivement et promit de se faire théiste. Pour moi, je restais ferme. Je ne sais cependant si on ne brûlera pas ce petit écrit, comme une œuvre de Jean-Jacques ou comme un mandement d'évêque. Mais un mal qui nous menace n'empêche pas toujours d'être sensible au mal d'autrui. Et comme j'ai le cœur bon, je plaignis les tribulations de Jean-Jacques.